Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Yevin Mwinga à la présentation.
Bonjour et bienvenue à tous à la une de l'actualité de ce matin. L'aéroport international de Bangkok de Kisangani fait peau neuve et il a été inauguré samedi par le président de la République Félix Tshisekedi. Capacité de cet aéroport, recevoir plus de 300 passagers en une heure de pointe et des avions de gros tonnage. Précision du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, dans ce journal. Qu'en est-il de la rentrée scolaire deux mois après cette reprise de classe? En tout cas, une évolution est observée dans certains coins du pays, mais d'autres syndicats boudent encore et résistent. Photographie complète de cette rentrée dans ce journal. Proposition de révision ou changement de la Constitution par Félix Tshisekedi. La Conférence épiscopale nationale du Congo s'oppose catégoriquement à ce projet. Plus encore, la CENCO appelle à une mobilisation générale pour décourager ce plan qu'elle qualifie de dangereux pour le pays. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, est notre invité. Il en parle en exclusivité avant la fin de ce journal. Je le disais en ouverture de ce journal, l'actualité reste encore dominée par le séjour du président de la République dans la province de la Tshopo, où il a notamment inauguré samedi l'aéroport international de Bangkok. Cet aéroport de Kisangani est une pierre angulaire posée pour le développement de la province et l'avenir de la RDC. Propos du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba a précisé que cet aéroport pourra notamment accueillir plus de 300 passagers en une heure de pointe. Plus encore, il va recevoir des avions de gros tonnage. On l'écoute ici, il donne les caractéristiques des infrastructures réhabilitées.
La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en une heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste, pour raison de travaux, cet aéroport accueillait deux vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays.
Une question à présent, quels sont les travaux qui ont été effectués pour la réhabilitation de cette infrastructure aéroportuaire? Réponse avec le directeur général de la régie de voies aériennes, Léonard Ngoma.
Les tableaux d'intervention opérés sur la plateforme aéroport de Kisangani-Bangkok se présentent ainsi comme suite. Pour la modernisation des chaussées aéronautiques, les travaux de génie civil suivants ont été réalisés par l'entreprise China Fest Engineering CFHEC en Suisse. Il s'est agi de la réhabilitation de la piste d'envol et de ses dépendances, du réaménagement de la bretelle et de l'agrandissement de l'aire de stationnement d'aéronefs, appelé tarmac pour les coûts globaux de 21 543 408.26 cents, financé par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, et c'est dans le cadre des projets prioritaires de sécurité aérienne phase 2.
Pour clore ce dossier, notez que le président de la République a remis des Jeep pick-up aux administrateurs des territoires des provinces de la Tchopo, de l'Ituri, du Bas et du Haut-Ouélé, ainsi qu'à la police nationale. Sachez aussi que des tracteurs agricoles ont été remis aux gouverneurs de 4 provinces de l'ex-Grande Orientale. Je vous signale par ailleurs que la 19e réunion du Conseil des ministres s'est tenue vendredi dernier à Kisangani. C'est un dossier signé Alain Irung et Jacques Moukonkolé. Peut-être un début de solution aux embouteillages qui agacent la population de Kinshasa. Pour lutter contre ce phénomène, dans la capitale, la Commission nationale de prévention routière et l'Office de voirie et drainage OVD se mettent ensemble. Ils ont pris certaines mesures à titre expérimental, dont la simulation a débuté hier dimanche 27 octobre et va se poursuivre au courant de la semaine. Il s'agit notamment d'une présence accrue des policiers dans différentes intersections, une mise en sens unique de certaines routes à forte affluence et l'installation d'une circulation alternée dans d'autres. Des mesures prises sous l'autorité du ministère des Transports, voies de communication et désenclavement du ministère des Infrastructures avec le concours du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la police nationale. L'objectif étant de rendre fluide la circulation des véhicules à Kinshasa. On écoute les explications du directeur technique de la CNPR, Valère Mfumukani, des propos recueillis par Jacques-Yves Molikma.
Au niveau de quartier 1, nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser qu'au niveau du saut de mouton des libertés. Pour la partie ouest, il y a l'avenue Ngouma, de 5h à 10h. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Mais à partir de 15h, de l'entrée Montfleury, là, on a inversé la circulation. Et la deuxième avenue, l'avenue du tourisme, la partie après le rond-point Lyon, ces tronçons-là est rendu à sens unique. Le matin, de 5h à 10h vers le centre-ville. Sous le boulevard Monduba, nous avons récupéré la quatrième bande, c'est-à-dire la bande après les séparateurs. Cette bande-là, nous allons l'utiliser. Le matin, de 5h à 10h, de Kitambo Magasin jusqu'au niveau de la gare centrale, elle sera également à sens unique. À partir de 10h, la circulation redevient normale. Et nous disons à partir de 15h, nous allons inverser la circulation.
Transport toujours. Après les larmes occasionnées par la série de naufrages sous le lac Kivu, l'heure est à l'étude de différentes étapes de la navigation. Et justement, Radio Capi commence une nouvelle série de reportages sur les leçons à tirer après le naufrage du MV Merdi le 3 octobre dernier à Goma. Au Nord Kivu, les risques de naufrage existent bel et bien sur le lac Kivu. Nous allons commencer par l'étape des embarquements sur les différents ports de Goma. Ils se font de manière précaire, selon des témoins, et le dysfonctionnement des services de régulation est perceptible. Très concrètement, des témoignages recueillis pointent du doigt les prestations de la Direction générale de migration, comme l'explique Gabriel Ouaménia dans ce reportage.
C'est aux grandes dames des voyageurs que les embarquements et les accostages aux différents quais des différents ports sur les larges du lac Kivu au nord et au sud Kivu se font d'une manière précaire et désordonnée sous l'œil impuissant des autorités et services commis à la réglementation du trafic lacustre. Nous citons ici la DGM, la police et les commissariats lacustres. Après l'enregistrement des passagers et les recouvrements forcés de l'argent par la DGM, par exemple, ces services ne contrôlent pas du tout le nombre de passagers embarqués selon la capacité du bateau. Suivons ces témoignages.
Les bateaux qui sont sur les lacs qui débordent pour l'effectif qu'ils doivent transporter, donc le nombre de sièges, je l'avais décrié moi-même quand je venais debout. Les armateurs considèrent les passagers comme des petits riens.
Plusieurs manifestes de voyage se font parfois manuellement, qu'il y a toujours des passagers clandestins qui ne figurent pas sur les manifestes et qui voyagent par des circuits détournés. Tous ces dysfonctionnements en amont peuvent inévitablement concourir au risque des cas de naufrage des bateaux sur les lacs, affirment plusieurs acteurs sous couvert d'anonymat. Toutes nos sollicitations pour avoir la réaction des responsables de la DGM n'ont toujours pas abouti. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Capi.
Autre titre de l'actualité, rentrée scolaire 2024-2025, une évolution est observée dans certains coins de la RDC et ce après plusieurs appels des autorités syndicales au niveau national pour la reprise effective des cours, notamment celui du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Cependant, le mot d'ordre n'est pas encore suivi dans d'autres provinces. En tout cas, certains syndicats campent sur leur position initiale et attendent que le gouvernement réponde à leur principale revendication, celle de verser à l'enseignant un salaire de $500 américains ou 1 500 000 francs congolais. Constat fait par les reporters de Radio Kapi dans les différentes villes de la RDC. Grâce à Msati nous donne ici un aperçu général de la rentrée scolaire à travers le pays, près de 2 mois après suivi.
Au Nord Kivu, la rentrée scolaire n'est toujours pas effective dans les écoles publiques de Goma. Malgré l'appel du SIECO, dans la majorité des établissements, les enseignants n'étaient pas présents toute la semaine dernière. Par ailleurs, la coordination des écoles catholiques du diocèse de Goma demande aux chefs d'établissement et aux enseignants de reprendre les chemins de l'école à partir de ce lundi. Toujours au Nord Kivu, les cours ont repris dans la quasi-totalité des écoles publiques de la ville de Beni. Reprise des enseignements annoncée également à Butembo à l'issue de la rencontre entre le maire de la ville et les principaux acteurs du secteur éducatif ainsi que de la société civile locale. Entre-temps, la grève persiste au sud Kivu voisin. La situation est confuse à Matadi au Congo central, où les élèves se présentent dans des écoles mais beaucoup d'enseignants n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Cette timidité est due au défaut de qualité et vice des procédures de ceux qui ont levé la grève, renseigne un syndicaliste. Dans la province du Tanganyika, les enseignants des écoles primaires publiques suspendent la grève et annoncent la reprise des cours dès ce lundi. Cependant, il lance un ultimatum de 3 mois au gouvernement. La situation a évolué au Maniema où le mot d'ordre pour la reprise des cours est suivi. Dans d'autres provinces, dont le Haut-Katanga, la Tchopo, le Grand Équateur et l'espace Kasaï, les activités scolaires se déroulent normalement en dépit de quelques résistances des grévistes observées encore dans certaines écoles.
Sécurité à présent, une certaine accalmie a été observée hier dimanche sur les lignes de front localisées depuis une semaine à l'intersection des territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru. Toutefois, la situation demeure confuse sur le terrain. Certaines sources ont annoncé la chute et l'occupation de nouvelles localités par les rebelles du M23 RDF l'après-midi de samedi. D'autres, par contre, soutiennent que l'ennemi est contenu sur une partie de la localité de Kalembe. Santé, le Congo central de plus en plus confronté au cas de monkeypox. D'après le bulletin épidémiologique de la 42e semaine, du 14 au 21 octobre, 31 cas suspects et nouveaux cas sont confirmés par le laboratoire de l'INRB à Kinshasa. Selon ce document, l'influence de la forêt du Mayombe sur la population est une des causes de l'expansion de cette maladie. La population qui vit majoritairement de la chasse manipule les animaux morts et consomme la viande de brousse mal cuite et du coup ne respecte pas les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Le point avec Nana Pluriche Mambo.
Selon le bulletin épidémiologique de Mpox de la province du Congo central, 25 zones de santé sont touchées sur les 31 que compte la province. En cette 42e semaine, 4 cas confirmés par les laboratoires de l'INRB et 31 cas suspects sont notifiés. Les zones de santé dans l'ex-district du Bas-Fleuve ont à elles seules 317 cas suspects et 13 confirmés. La raison, d'après Dr Bonner Titeku, chef de division provinciale de la santé, c'est la présence de la forêt de Mayombe. La population qui vit majoritairement de la chasse ne respecte pas les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Ils manipulent les animaux morts et consomment la viande des brousses mal cuites. Dans le cadre du contrôle de cette maladie et de la lutte contre son expansion, les équipes de la coordination provinciale ont reçu dans la même semaine une dotation de l'OMS en kit de prélèvement des échantillons des laboratoires. Actuellement, ces équipes mènent une sensibilisation communautaire dans les 4 zones de santé à forte prévalence de Mpox, dont celle de Kangou à Lukula. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 50 personnes ont été tuées dans le centre du Soudan lors d'une attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont assiégé des villages entiers dans ce secteur, a affirmé samedi dernier un groupe pro-démocratie locale. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les FSR dirigée par le général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays.
L'invité.
La Conférence épiscopale nationale du Congo dit non au changement ou à la révision de la Constitution. Cette réaction des évêques catholiques est faite par Mgr Donatien Chollé, secrétaire général de la CENCO, dans une interview exclusive accordée ce week-end à Radio Capi. Les prélats catholiques appellent à une mobilisation générale pour décourager ce projet qu'ils qualifient de dangereux pour le pays. Mgr Donatien Chollé s'entretient ici avec Grâce Hamzati.
Monseigneur Donatien Chollé, bonjour.
Bonjour.
Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction?
Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique.
Comment vous expliquez cela?
Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans, ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui, il y a des grèves ici, demain, il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social. Mais aussi, ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un bras de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Moi, je pense que les évêques ont raison de demander vraiment de bien réfléchir, parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ça ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coup d'argent. Donc, les gens qui sont nés de la corruption, et je crois qu'il ne se gênerait pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir compte parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi, nous vivons dans la population. Ceux qui font beaucoup de bruit et ne sont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est une question sensible, en fait. C'est une question socialement très sensible. Alors, il ne faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent.
Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire?
Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant, mais en prophète. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devra prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre aux chefs de l'État aussi que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en 10 jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps? Le problème est ailleurs.
Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève?
Je vais le supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Voilà, c'est sur ces propos de Monseigneur Donatien Cholet que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, à Jacques-Yves Molima et à Debs Vita.